France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Nous sommes à 20 km de Lyon, au confluent du Rhône et du Gière, dans la petite ville de Givors. Dès le début du 19e siècle, cette position stratégique en fait un carrefour commercial et un centre industriel. On y fabrique du verre et bientôt s'installent de nombreuses usines de sidérurgie, des manufactures de tuiles et de briques, des fonderies, entre autres. Il y a la société FIV, une entreprise de construction mécanique à l'origine de la réfection de la première ligne de chemin de fer française allant de Lyon à Saint-Étienne. Elle emploie jusqu'à 7000 ouvriers au début du XXe siècle. De nombreux Givordins en parlent comme d'une ville dans la ville. Il y a aussi l'usine Berthier, spécialisée dans la fabrication de machines-outils. Si bien qu'en 1950, Givors, ce sont 15 000 habitants et presque autant d'ouvriers qui y travaillent. Ici sont arrivés de nombreux immigrés du monde entier, des Belges, Italiens, puis des Russes blancs, des Espagnols, des Maghrébins, des Turcs, sans oublier la migration intérieure d'Ardèche et du Massif central. Mais à partir des années 70, les usines ferment les unes après les autres. L'usine FIV en 1980, la verrerie en 2003. Aujourd'hui, la grande cheminée de la verrerie est le dernier vestige de l'usine et un repère pour les Givordins. Brigitte, Gérard et Bruno ont passé leur vie à travailler dans ces usines. Ils racontent justement ces vies d'usines, les conflits sociaux, les séquestrations de patrons, leur fierté tout autant que les risques qu'ils ont pris pour leur santé. Ouvrières et ouvriers, premier épisode à Givors par Antoine Guériment.
Je m'appelle Brigitte Riza. J'habite à Communet, je suis née à Saint-Étienne. J'ai travaillé pendant 40 ans, presque toute ma carrière, chez FIV Solios à Givors. J'allais jusqu'au bac, c'est tout. Bac G2, ça s'appelait. C'était gestion administrative, voilà. Après le bac, j'ai tout de suite cherché du travail et j'ai testé nos dactylos. J'ai trouvé une agence d'intérim, je travaillais en continu, je terminais le vendredi, le lundi je reprenais une mission ailleurs, et puis après je suis arrivée chez FIV. Je suis restée 3 mois en intérim à peu près, puis après j'ai été embauchée. J'avais 19 ans. FIV, ça tenait une grande place dans Givors, hein. C'était une grosse boîte. Entre FIV et la verrerie, c'était les entreprises qui prenaient tout le personnel, presque, hein, dans Givors. Quand je suis arrivée chez FIV, c'était une très grande boîte, parce qu'il y avait encore les ateliers, il y avait le bureau d'études, tout ça. Mais c'était vraiment austère. Nous, on était un pôle secrétariat et personne ne se parlait. C'était vraiment dur pour moi la première journée. C'est si bien que je ne voulais pas y retourner. À midi, quand je suis rentrée, que j'ai dit à ma mère, c'est fini, j'y vais plus, c'est une vraie prison, cette boîte. Ma mère, elle m'a dit, c'est ça, tu ne vas pas y retourner, oui. Et ma mère, elle a dit, non, tu y vas, hein. Tu t'y habitueras, et puis c'est tout, c'est le boulot. À cette époque, on écoutait bien les parents, hein. On n'avait pas bien le choix. Et j'y suis restée. On était 7-8 sur des machines à écrire, hein, mécaniques encore. Donc ça faisait un bruit pas possible. Hein. Et moi, il n'y avait pas de place, donc il m'avait mis dans un petit bureau sur le côté. Je tournais le dos aux autres, carrément. Et il y avait notre responsable qui était assez sévère. C'était elle qui distribuait le travail. Elle était assez lunatique. Un jour, ça allait, et puis un jour, ça allait pas. Le moindre petit truc, elle éclatait. Il fallait se taire, il fallait lui dire de partout où on allait. Hein. Alors après, quand elle voyait qu'elle nous avait fait trop chier, entre parenthèses, l'après-midi, elle essayait de nous amadouer. Elle nous apportait des gâteaux, des bonbons. On bavait devant, mais on n'en voulait pas de ces bonbons. Après, elle nous les balançait pour essayer de nous dérider. Et puis c'est vrai que j'ai tenu parce qu'on était plusieurs dans le pôle secrétariat à bien s'entendre. Et moi, j'ai eu beaucoup d'amis à FIV. Et c'était quand même une entreprise un peu familiale. Il y a même mon papa qui a travaillé un moment. C'est là qu'en plus que j'ai rencontré mon mari. Mon mari travaillait au bureau d'études, il était dessinateur. Quand on s'est mariés, ils nous ont donné un appartement en location. Ils avaient plusieurs immeubles d'Angivore et c'était que des gens de FIV qui se retrouvaient. Les locations étaient très peu chères, donc je travaillais toute la journée à FIV. Bon, avec déjà des gens de ma famille, je rentrais le soir, on voyait encore des gens de FIV. Et si on allait au marché ou n'importe quoi, c'était rare qu'on ne trouve pas des gens de FIV. FIV avait beaucoup de place dans notre vie. Il y avait le bureau du patron, il y avait le secrétariat et entre, pour passer d'un bureau à l'autre, il y avait un tout petit sas. Le secrétariat, ça faisait une table et donc cette table, on faisait le courrier, tout ça. Et après, ça se coulissait, la grande table, et il y avait une petite porte en bout. La porte était cachée sous cette table, ça se voyait pas. Quand on rentrait dans le bureau de le secrétariat, on voyait que cette table... On ouvrait la petite porte en bout, puis il y avait les escaliers qui descendaient. C'était comme une cave, et là, il y avait le coffre sécurisé. C'était une pièce blindée, parce que tous les mois, il y a la paye des ouvriers qui arrivait, parce que tout le monde était payé en liquide au départ. Et donc, il y avait le camion blindé qui arrivait, et il y en a un qui surveillait, il était armé, quoi. On ouvrait les fenêtres et il y en a un qui passait par les fenêtres et descendait tout le magot à la cave et puis après il repartait. Et ça tous les mois. Alors le patron, il s'était fait plusieurs fois séquestrer dans son bureau par les syndicalistes, les ouvriers surtout. Et donc il y avait une petite réserve de nourriture entre son bureau et le secrétariat au cas où il se fasse séquestrer. Et donc c'était notre responsable qui changeait les provisions quand ça arrivait à expiration. Et puis nous, ben on mangeait, on se partageait ce qu'il y avait. C'était une sirène quand c'était l'heure de se mettre au travail. Il fallait arriver un quart d'heure avant. La sirène, elle sonnait fort. Tout le monde en profitait, tout Givor savait que c'était la rentrée de FIV. Donc la porte d'entrée sur la rue, là, elle fermait un quart d'heure avant l'heure de travail. Le parking était à l'extérieur. Donc on se dépêchait d'arriver, il y avait des gardes, c'est les gardes qui fermaient. Il y en a un qui était sympa, alors quand il voyait que passait une voiture, il sortait dehors, il disait « Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard !» Mais l'autre, il était peau de vache. Il voyait passer une voiture, il voyait qu'on arrivait en courant et on entendait « Boum !» Ça y est, il nous fermait dehors et on attendait un quart d'heure. Pour bien faire voir qu'on est en retard. Et après, en fin de semaine, eh ben, notre responsable, elle passait, il notait tous ses retards, et elle passait et disait, cette semaine, tu as eu tant de retard. Quand c'était l'heure de la sortie, tout le monde partait en même temps. Tous les ateliers, le bureau d'études, il n'était pas question qu'on parte avant que ça sonne. On était plus de 1000 à sortir, hein. C'est bien simple, quand on était enceinte, on avait une dérogation pour sortir 5 minutes avant que ça sonne. Quand on devait aller au bureau d'études, parce que notre responsable nous avait demandé d'y aller, on montait et on hésitait avant d'ouvrir les portes, on faisait le plus doucement possible pour pas se faire remarquer. parce que le bureau d'études, c'était une énorme pièce avec des tables à dessin. Il y en avait une cinquantaine au moins. Et donc, il y avait du monde. Et dès qu'on commençait à traverser, tout doucement, il y en a un qui nous repérait, ben ça y est. On se faisait siffler, ils faisaient les bruits d'animaux et... Je sais pas, on serait cru dans une basse-cour, c'était horrible, ils s'y mettaient tous, on était vraiment gênés, quoi. J'avais eu une grosse altercation avec ma responsable. Moi, je suis quelqu'un d'assez timide, mais à force qu'elle nous en faisait, un jour, j'ai éclaté complètement. Alors, je lui ai dit des choses, j'ai tout déballé, quoi. Je lui dis qu'elle était ignoble, que c'était impossible de travailler avec elle. Mais il y avait le responsable du bureau d'études. Il était à côté de moi. Il me disait, allez, calme-toi. Et puis c'est tout de suite après, il nous a appelés. Il a dit, on va casser cette ambiance. Vous allez travailler chacune pour un responsable dans le bureau d'études. Et puis ça se passera mieux. Donc le secrétariat a été éclaté et c'était beaucoup mieux. J'ai pris ma retraite en 2014 et depuis on se revoit encore de temps en temps avec des amis de FIV, on arrive à manger ensemble de temps en temps et voilà. Et mon petit-fils vient de faire il n'y a pas longtemps un stage à FIV grâce à moi et mon mari. Parce qu'on en connaît encore pas mal avec qui on a travaillé. On a demandé et ils ont tout de suite dit « Oh bah oui ».
Je m'appelle Gérard Garde, j'habite Chasse-sur-Rhône. Et j'ai 73 ans. J'ai été ouvrier toute ma vie à Givors. Mon père travaillait à Fives-Lille. C'était la plus grosse entreprise de Givors. Il était à l'entretien. L'entretien des machines. Du coup, j'allais l'attendre. Et quand je voyais la sortie de Fives-Lille, c'était une nuée de vélos, de gens en vélo qui sortaient. Et la plupart s'arrêtaient le long de la route de la Frédière, là, chez Dédé, chez les cafés qu'il y avait, donc ça buvait tous les canons, et après ça repartait. Hein. C'était immense, une foule. C'était impressionnant à voir. Mon père est décédé quand j'avais l'âge de 14 ans, et donc j'ai été travailler. Parce que ma mère ne travaillait pas, j'étais le seul à travailler. J'ai travaillé chez Martel, l'imprimerie. J'étais réceptionniste sur une rotative d'imprimerie. Je recevais tous les livres de la machine. Je mettais sur palette les livres. Un travail très fatigant. On faisait midi, minuit, toute la semaine, on travaillait 5 jours, plus le samedi. J'ai travaillé dans l'imprimerie 10 ans. Et après à Berthier, comme amarreur, pontonnier. C'est-à-dire que j'amarrais des pièces, ces grosses pièces de 10 tonnes, pour les mettre en place sur leur châssis. La première fois que je suis rentré dans l'usine, ça m'a fait une très grande impression de voir toutes ces machines et tous ces ouvriers qu'il y avait. Ça faisait peur même, parce que voir des pièces comme ça, charriant dessus, passant dessus de nous, c'était très impressionnant comme travail. En septembre 81, on a fait une grève pour les salaires. C'est de là qu'on a séquestré notre directeur, qui voulait au début pas de négocier. On a dû le garder 2-3 jours, il me semble. Le samedi, il devait se marier. Donc, on l'a tenu jusqu'au dernier moment et on l'a lâché. Il n'était pas bien content, quoi. Donc, nous avons été augmentés. Ça a marché. 2 ans plus tard, Berthier ferme. C'est la Stegma qui nous a repris. Donc on a attaqué à usiner des pièces de moteurs d'avion. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Là, c'était vraiment propre. Les locaux, c'était vraiment, on pouvait manger par terre tellement que c'était propre. Les bleus de travail qu'on mettait, on pouvait les garder au moins 15 jours, 3 semaines sans se salir, parce que c'était pas salissant, donc c'était très très intéressant. C'était vraiment bien comme boulot. C'était très bien parce qu'ils nous avaient mis un bureau avec une chaise à chaque machine. On pouvait écouter la radio et on pouvait lire du moment où la machine tournait. Donc on lisait les journaux, c'était vraiment pas fatigant, hein. C'était sensationnel comme boulot. 95, on apprend que la boîte ferme. Il y a eu une assemblée générale et donc au vote, on a décidé d'occuper l'usine. On est à peu près 150 ouvriers, donc on est une cinquantaine, un tiers à occuper l'usine pendant un an. Moi, j'y allais un coup la journée, un coup la nuit, puis j'y allais samedi ou le dimanche, la semaine. Suivant, on regardait le listing des gars qu'il y avait, s'ils n'étaient pas nombreux, hop, on y allait. C'était bien, on était tous solidaires quand même. Enfin, les 50 qui restaient, ils étaient solidaires. On jouait aux cartes, on regardait la télé, on faisait des rondes dans l'usine. Mais on était constamment surveillés, hein, de toute façon. Parce qu'en face de l'usine, il y avait un bâtiment, là. Et c'est souvent qu'il y avait les flics qui étaient dedans, en train de nous surveiller pour voir ce qu'on faisait. Si on essayait de préparer des manifestations ou quoi que ce soit. On a fait de grosses manifestations, quand même. Celle qui m'a marqué, c'est celle qu'on a été à Bollay. Le maire de Bollay, Charles Millon, qui était ministre de la Défense à l'époque, c'est lui qui s'occupait du dossier de la Stegma. Donc on s'est pointé deux quarts avec femme et enfant, là-bas le jour des vœux du maire, et on est rentré, il s'est trouvé bête. Il a regardé tout de suite les flics, les gendarmes qu'il y avait autour, et ils nous ont laissé faire. Comme il a vu qu'il y avait des enfants, tout ça, il n'a rien dit. Donc on a mangé à l'œil, on a bu à l'œil. Et quand on est parti, on a tous pris des bouteilles de champagne, chacun. On a pris les bouteilles et on est parti avec. Il n'a rien dit. Noël, on a eu quand même des ouvriers de chez Renault qui sont venus occuper l'usine à notre place pour pouvoir qu'on fasse Noël chez nous avec les enfants. Et ils nous avaient amené des cadeaux pour les gosses. Et ils sont venus aussi occuper l'usine au mois de juillet, je crois, août, pour nous permettre de partir une semaine en vacances avec nos enfants. Il y avait une solidarité avec tous les ouvriers du coin, même il y avait un arrangement avec toutes les usines d'à côté, donc si les CRS arrivaient, ils étaient donc un coup de fil et ils venaient tous, ils arrêtaient de bosser, ils venaient tous nous soutenir tout de suite pour pas qu'on soit expulsés. Les CRS ne sont jamais venus, jamais. Un jour on a appris comme quoi on était repris par les thermos, donc j'avais 97, on a repris le boulot. Thermos, c'était travail de la fonte déjà, mais on travaillait tout pour Caterpillar. La fonte, c'est très très sale, on était noir. Après, ouais, en 2010, j'ai pris ma retraite à 44 ans de carrière. Je suis fier d'avoir quand même manifesté, occupé l'usine, tout ça, quand même pour faire redémarrer l'usine, quoi. Maintenant, je fais le jardin, la pêche, les champignons, les collègues, les brocantes. Mais bon, j'y vais, c'est triste. Il n'y a plus d'usine, il n'y a plus rien. C'est vrai que tout a fermé.
Je m'appelle Bruno Cordero, je suis retraité, j'ai 66 ans, je suis né à Givors, c'est à peu près à mi-chemin entre Lyon et Saint-Étienne. À Givors, il y avait beaucoup d'entreprises, il y avait beaucoup de travail, c'était vraiment industriel. Il y avait Fivelille, il y avait Berthier, il y avait Prénat, il faisait de la fonderie, il y avait la verrerie, et voilà quoi. Alors, la veille de ma naissance, mon père est mort des suites d'un cancer des testicules. Et donc après, ma mère m'a élevé toute seule. Et le patron de Berthier était venu voir ma mère, parce qu'il travaillait chez Berthier, mon père. Il était ajusteur-monteur. Et le patron est venu voir ma mère, lui dire qu'elle m'élève pendant un an. Et après, il lui trouvera une place chez Berthier. Donc, ce qu'elle a fait. Après, j'ai passé un CAP d'ajusteur mécanicien. Et je suis venu travailler chez Berthier parce que mes parents y travaillaient, quoi. C'était plus facile. Berthier, ça payait bien. Il y avait pas mal d'avantages. C'était renommé. En plus, c'était de renommée mondiale, hein. Berthier, c'est une entreprise de fabrication de machines-outils. C'était un peu une fierté parce que quand même, on faisait de la bonne cam, quoi. En septembre 81, on avait demandé des augmentations et puis ça coinçait tout. Donc, comme il y avait un refus, ben on a décidé de fermer la boîte. On a occupé l'usine. Et puis on a continué à occuper l'usine. On a occupé pendant 6 semaines. Alors du coup, moi, j'avais obtenu 14% d'augmentation. C'était pas mal. Et puis un jour, j'ai vu une annonce. La Verrie recherchait un gars de 25-35 ans, mécanique. Et donc, je suis rentré à la Verrie le 20 novembre 89. Je suis rentré. Le métier était dur parce qu'il faut bosser dans le bruit, dans la chaleur, dans la saleté. Et fin des années 90, il y a eu 3 collègues qui sont tombés malades de cancer. Moi, personnellement, je me suis pas soucié de ma santé. Quand ces 3 collègues sont tombés malades, non, on n'a pas arrêté, on n'a pas réagi, quoi. Mais il y avait une enquête par la Sécu, parce que il me semble que c'était le même cancer. Mais cette enquête-là, j'ai jamais su le fin mot, j'ai jamais su la conclusion. J'étais fraiseur, moi, alors mon chef m'avait fait usiner des barres de poussoir, c'est-à-dire faire des emplacements cylindriques pour que ça prenne bien le verre. Mais c'était de l'amiante, c'était... En même temps que je soufflais ma machine, je polluais tout l'atelier, parce que du coup, ça envoyait de l'amiante partout, quoi. Mais ça, personne n'était là pour nous dire de pas y faire. La Verrie, elle a fermé en janvier 2003. Moi, j'étais parti avant. Moi, j'étais parti en septembre. Mon chef d'atelier, il s'est retrouvé directeur à la Verrie de Rive-de-Gier. Et du coup, il nous a pris une dizaine de givors et il nous a emmenés avec lui. Moi, j'ai pas vu le moment de la fermeture. Puis je préférais quand même partir. Parce que ça, je pense que ceux qui sont restés, ça a dû leur faire quelque chose quand même. C'est une Verrie qui datait de 1746. Donc, de voir la Verrie qui s'arrête comme ça, je pense qu'il y en a qui ont dû pleurer. Et après, l'association des anciens verriers de Givors a été montée par la CGT de la Verrie. C'était bien d'avoir un local pour se retrouver. Je retrouvais les anciens collègues. On buvait un café, on discutait, on parlait... des collègues qui ont chopé des cancers, quoi. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de malades, quoi, et qu'il y a eu beaucoup de morts. Et un jour, il y a une dame, là, son mari est décédé. Elle a dit, mais on va attendre qu'il y a combien de morts pour se bouger le cul, quoi. Et c'est de là que c'est parti. L'association décide de faire une enquête, et le résultat de cette enquête trouve qu'il y a 3 à 4 fois plus de gens qui meurent de maladies professionnelles dans la Verrie qu'ailleurs. Et puis, il y avait les actions qui commençaient à se mettre en marche. Quand il y en a qui ont commencé à parler, qui voulaient attaquer la Verrie, quoi. Moi, j'étais pas trop chaud pour attaquer la main qui me nourrissait. Au début, j'étais pas dans le truc d'attaquer mon patron. Mais tout ça, là, ça m'a fait réfléchir. Et puis finalement... À force de réflexion, qui se permettent de fermer une boîte, de mettre 317 familles dans la mouise. À Givors, ils nous ont fermé notre verrie. ils nous ont pris pour des merdes, quoi. Ils en avaient rien à foutre de nous, quoi. Et donc, finalement, pourquoi avoir des scrupules avec des gens comme ça? On a été 60 à porter plainte. On a porté plainte par rapport aux produits dangereux, par rapport à l'exposition à l'amiante et l'exposition au CMR. Les CMR, c'est les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. On a été exposé à des produits très dangereux pour la santé. Ça a duré des années. Et puis finalement, on a perdu l'année passée. On a appris qu'on avait perdu. Après des appels et tout, hein. Parmi les 60, il y en a, je crois que c'est 12 qui sont déjà morts de cancer. Et un jour, j'étais à l'association des verriers, on discutait là, et puis un ancien collègue à moi qui m'a sorti cette phrase là, qui m'a un peu touché, c'est qu'il m'a dit heureusement que ça a fermé, si finalement, si ça se trouve, on serait déjà mort. Je me suis dit, ben Dieu, c'est... mais finalement, il a raison, quoi. C'est peut-être pas plus mal que ça ait fermé. Parce que je serais peut-être pas là pour en parler. C'est bizarre, parce que nous, ça nous a vraiment fait un choc que la verrerie ferme. C'est paradoxal, parce que nous, ce qu'on voulait, c'est que ça reste ouvert. Nous, c'était notre boulot quand même, c'était notre grand pain. Hein. Parce qu'on n'avait pas vraiment conscience qu'on s'empoisonnait là-bas. Les gens, ils faisaient leur boulot du mieux qu'ils pouvaient. Ils n'avaient pas conscience qu'ils respiraient des trucs pas bons. Quoi. Le métier était dur, les conditions étaient dur, il y avait de la fumée, il y avait de la chaleur, il y avait du bruit. Mais on n'a jamais laissé un collègue se débrouiller tout seul. On allait toujours donner un coup de main pour finir un dépannage. Il y avait de la solidarité. Ouais, c'est simple. Et cette solidarité, elle continue un peu à l'association des verriers. Ça maintient le souvenir, quoi. Pour retrouver les anciens, pour... Et puis je me sens bien avec eux. Je suis à ma place, voilà. On peut dire ça comme ça, ouais. Je me sens à ma place ici.
Ma beauté statique, je t'écrirai des cantiques. Pourvu que ton dédain de mon dessin, ta grâce distante me laisse en dilettante. J'admire, je convoité, me se laisse prédater.
C'était Ouvrières et Ouvriers, premier épisode à Givors, un reportage d'Antoine Guérimont réalisé par Anne-Laure Chanel et Eric Lancien et mixé par Nicolas Leroulet. Merci à Amerigo, à Gérard, à Bruno, à Brigitte, à Henri Juan, à Laurent Vera, à Jacques Delpino et à la mairie de Givors. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy avec un coup de main d'Inès Bouffartic, Sébastien et notre stagiaire désormais, c'est Adèle Toquet.
Glacier. Que j'en tremble. Elle saurait vous surprendre, mais rien, mais rien, mais rien de ce qu'elle semble. Ta poigne frêle, si infime soutien, mes nerfs s'en mêlent au contact, au contact, au contact, au contact des tiens. Au contact.